sur 30 secondes avant départ. Vous n'oublierez pas, bien sûr, de diffuser du sourire.
La chronique de Gilles Labouroir. Le sport entre histoire et société.
Cette semaine, les chroniques de Gilles s'intéressent aux athlètes et sportifs morts au champ d'honneur. Et ils sont nombreux. Le plus connu d'entre eux est Jean Bouin, vice-champion olympique du 5000 mètres aux Jeux olympiques de Stockholm en 1912, recordman du monde de l'heure, 19 km en 1913, multi-champion de France et vainqueur du Cross des Nations à 3 reprises. Jean Bouin est la première star de l'athlétisme français. Il était déjà finaliste sur le 1500 mètres de Londres en 1908. En 1912, aux Jeux de Stockholm, sur 5000 mètres, le Finlandais Anis Kolehmainen bat sur le fil le Français Jean Bouin. En ce temps-là, ce Finlandais annonce une légende vivante. Le Finlandais volant du nom de Paavo Nurmi, 1m74, 65 kg, 5 médailles d'or aux Jeux de Paris 1924. Il a été détenteur de 28 records du monde entre 1920 et 1932. Une seule ombre, sa défaite aux 5000 mètres des Jeux de 1920 d'Anvers, battu par un autre Français, Joseph Guillemot. Jean Bouin est tué et meurt au champ d'honneur le 29 septembre 1914, à l'âge de 26 ans, lors de la première bataille de la Marne. Il aurait demandé à être dans les unités combattantes, agent de liaison et non à l'arrière, pour s'occuper de la formation physique des soldats. Il sera fauché par un éclat d'obus en raison d'une erreur d'artillerie de l'armée française. Il donnera son nom à d'innombrables avenues, rues, stades, piscines et autres enceintes sportives, la plus connue étant celle du Stade français. Jean Bouin est né à Marseille le 21 décembre 1988. Ses parents divorcent et son instituteur n'est autre que le père de Marcel Pagnol. Tout jeune, il est formé au sport de l'époque, gymnastique, escrime. En ces temps-là, le sport doit participer de la revanche, la France ayant perdu la guerre contre la Prusse en 1870. Le sport est dans l'armée, il faut être combatif et l'exercice physique est de règle. La philosophie même de l'époque est à l'action. Selon le philosophe Bergson, vivre, c'est agir. En 1903, adolescent, il est émerveillé par les coureurs professionnels du marathon de Marseille. C'est la révélation. Malgré une carrure d'haltérophile, il s'adonne à une bonne hygiène de vie. Pour gagner sa vie tout en pratiquant la course à pied, Jean Bouin est employé à la Société Générale, d'abord à Marseille, ensuite à Paris. C'est le provincial qui monte à Paris et fréquente un héros national, le boxeur Georges Carpentier, champion du monde, et les artistes Maurice Chevalier et Mistinguette. Les combats de boxe et spectacles de music-hall font à l'époque bon ménage. Tous les sports ont été touchés par la Grande Guerre. Le tennis, avec Roland Garros, intrépide aviateur descendu par les Allemands en 1918 dans le ciel des Ardennes. Le rugby avec Aimé Giral, demi d'ouverture prometteur de 19 ans, champion de France en 1914 avec Perpignan, tué sur le front de la Marne 14 mois plus tard. Le stade de Dax porte le nom de cet ancien capitaine du 15 de France, Maurice Boyau, abattu dans les airs en 1918 à quelques jours de l'armistice, alors qu'il menait de front les carrières d'avateur et de sportif de haut niveau. Alfred Messoni, champion de France avec Toulouse en 1912, capitaine par ailleurs du 15 de France est tué d'une balle dans le cœur en 1914, lors de la première bataille de la Marne. Mort en héros, il a droit au même titre que les autres sportifs toulousains morts pour la France, à une statue à Toulouse appelée Monument d'Héraclès. Concernant le cyclisme, les vainqueurs du Tour de France ont payé un lourd tribut lors de la Première Guerre mondiale. Trois d'entre eux sont en effet tombés au front, à savoir Lucien Petit-Breton, lauréat de la Grande Boucle en 1907 et 1908, François Faber, vainqueur en 1909, et Octave Lapize en 1910. Petit détour maintenant sur les écrivains morts durant la Grande Guerre en cette période où Maurice Genevoix, L'auteur de ceux de 14, témoignage racontant les combats dans la Meuse pendant lesquels il fut transpercé de plusieurs balles entre le 11 novembre 2020 au Panthéon. Les plus connus sont Charles Péguy, Alain Fournier, Guillaume Apollinaire. Charles Péguy, né dans une famille modeste à Orléans, est lieutenant de réserve quand il est tué d'une balle dans le front alors qu'il dirige une attaque contre les troupes allemandes près de Meaux, à l'est de Paris, le 4 septembre 1914. À 41 ans, sa renommée de poète mystique et d'intellectuel fondateur de la revue littéraire des Cahiers de la Quinzaine n'est plus à faire. C'est une France éternelle et catholique qui émerge. Heureux ceux qui sont morts pour quatre coins de terre. Heureux ceux qui sont morts dans les grandes batailles, couchés dessous le sol à la face de Dieu. Heureux ceux qui sont morts pour leur âtre et leur feu et les pauvres honneurs des maisons paternelles. Heureux ceux qui sont morts car ils sont retournés dans la première argile et la première terre. Heureux ceux qui sont morts dans une juste guerre. Heureux les épis mûrs et les blés moissonnés, avait-il écrit quelques mois plus tôt dans un poème prémonitoire. De son côté, François-Alain Fournier, fils d'instituteur du Berry, fut tué dans les premières semaines du conflit le 22 septembre 1914 à Verdun, à l'âge de 28 ans. Il ne connaîtra jamais le succès de son unique roman, Le Grand Mold, paru en 1913, aura auprès de générations entières d'adolescence. Enfin, engagé volontaire, Guillaume Apollinaire est mort, mais à la fin du conflit, le 9 novembre 1918, à l'âge de 38 ans, victime d'une blessure à la tempe et de la grippe espagnole qui faisait des ravages auprès des populations épuisées par 4 années de guerre. Apollinaire avait tenu durant la guerre une rubrique au journal L'Intransigeant. Le soir, il allait souvent au cirque Medrano voir les gymnastes allemands et les tours vélocépédiques. Sinon, il accompagnait Picabia au combat de catch et Picasso au match de boxe. Il envoyait régulièrement à son journal les résultats complets des championnats d'athlétisme militaire, nous apprenant les noms et les performances des vainqueurs en saut en hauteur avec élan ou saut en hauteur sans élan, discipline qui n'existe plus aujourd'hui. Il y a 102 ans, Joseph Israël Guillemot, 1899-1975, entrait au Panthéon olympique en remportant le 5000 mètres des Jeux olympiques d'Anvers, réalisant au passage l'exploit de battre le Finlandais Paavo Nurmi. Il avait 20 ans. Après son sprint sec et étourdissant dans la ligne droite finale, Guillemot laisse Paavo Nurmi, le légendaire Finlandais volant, à plus de 4 secondes derrière lui en cet après-midi du 17 août 1920. Dans l'enceinte du stade olympique d'Anvers, en Belgique, il réalise les 12 tours et demi de la piste de 400 mètres en 14 minutes 55 secondes 6 dixièmes. Son temps de passage aux 3000 mètres, en 8 minutes 47 secondes 20, était inférieur au record de France de l'époque, 8,49 par Jean Bouin en 1911, mais ne fut pas retenu. Paradoxalement, 3 jours plus tard, en finale du 10 000 mètres, il change de stratégie en attaquant à 5 tours de l'arrivée. Nurmi va revenir, attaquer à la cloche et prendre sa revanche, Guillemot se contentant de l'argent. En raison d'un différend avec la Fédération d'athlétisme, il ne participera plus jamais aux Jeux olympiques malgré son jeune âge. Il ne sera pas retenu pour les Jeux olympiques de Paris 1924. Guillemot, un cabochard, une tête de cochon. En gagnant le 5000 mètres olympique en 1920, Joseph Guillemot fait partie des 11 athlètes français champions olympiques en athlétisme aux côtés de Michel Théato, marathon en 1900, Ahmed Bouguera El-Walfi, marathon en 1928, Michel Ostermeyer, poids et disque en 1948. Alain Mimoun, marathon en 56, Colette Besson, 400 mètres en 68, Guy Drus, 110 mètres haies en 76, Pierre Quinon, perche en 1984, Marie-Josée Pérec, 400 mètres en 92 et 200-400 en 96, Jean Galfionne, perche en 96, et Renaud Lavillenie, le dernier en date, perche en 2012. Mais le premier adversaire de Joseph Guillemot se trouve bien dans le chaos de la Grande Guerre. Il fut incorporé le 22 avril 1918, et fut libéré de ses obligations le 3 mai 1921. En effet, il y remporte en 1918 une autre type de victoire, celle de revenir du front vivant. Vivant, mais pas indemne. Car à la suite d'une attaque au gaz moutarde dans les tranchées, il souffrira toute sa vie d'une atrophie du poumon droit. Rescapé de la Grande Guerre, il avait dorénavant ses capacités vitales amoindries. Enfin, Malgré son petit gabarit, 1m60 pour 54 kilos, il était relativement puissant et très proche de certains meilleurs coureurs africains actuels. Le gabarit de Joseph Guillaumeau avait aussi à faire merveille, même après un gazage en bonne et due forme. Joseph Guillaumeau décédera le 9 mars 1975 des suites d'un cancer du poumon et repose désormais au cimetière d'Oradour-Saint-Genès en Haute-Vienne. Comptant surtout sur son talent et sa ténacité pour triompher, Joseph Guillaumeau avait une vision du sport, de l'entraînement et de l'hygiène de vie très éloignée de celle de ses rivaux, à l'opposé de Jean Bouin par exemple. Il fumait cigarette et même un cigare 5 minutes avant le départ de la course, ou un sucre inhibé de rhum. Cela semblait le transcender. Malgré une préparation plus qu'insolite, on est obligé de constater que sa méthode ne semblait pas si mauvaise au vu de son palmarès. Champion olympique du 5000 mètres en 1920, vice-champion olympique du 10 000 mètres en 1920, vainqueur du Cross des Nations en individuel, l'actuel qui ressemblerait au championnat du monde de cross, en 1922, deuxième en 1926. Beaucoup de sports ont été pratiqués dans les tranchées. C'était un refuge pour de nombreux soldats en attente. Avec leur crâne rasé, les Samis américains y ont introduit le basket, le volley, le baseball. La Coupe de France de football y est née. La plupart ont fait l'apprentissage du football et du rugby. L'histoire du sport, c'est aussi l'histoire de la guerre.
C'était la chronique de Gilles Labourroir, à retrouver en podcast sur le site d'Esprit Occitanie.